Qui nous écoute RTL, il est 7h.
RTL Matin,
Amandine Bégaud et Yves Calvi.
Et le journal de 7h avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une ce matin, la fin de la reconstitution de la mort de Noël.
Elle s'est tenue jusque tard hier soir sous haute surveillance, à l'abri des regards et en présence des deux policiers impliqués.
Et c'est la toute première fois que tous les protagonistes étaient réunis, parmi eux la mère de Noël. Son avocat prend la parole ce matin, une première également, rendez-vous à 7h40.
Le président chinois Xi Jinping en France pour parler commerce et sécurité et les discussion s'annonce tendue.
Une Chine déclinante, c'est le moment ou jamais pour la France d'en profiter, c'est ce que nous expliquera François Langlais à 7h35.
C'était l'événement politique du week-end, ce grand débat des européennes sur RTL, si vous avez manqué ça, résumé dans un instant. Et puis Tony Parker, Didier Drogba, Jean-Pierre Papin, à deux jours de son arrivée en France, le casting des porteurs de la flamme olympique dans Marseille se précise.
RTL Matin.
Quelques minutes rejouées pendant plus de 10 heures. Une reconstitution du matin de la mort de Noël s'est donc tenue hier à Nanterre, plus de 10 mois après le tir de policier qui a tué le garçon après un refus d'obtempérer. Nicolas Burnan, l'opération s'est déroulée sous haute surveillance en présence des deux fonctionnaires impliqués.
Oui, derrière des bâches dressées, la scène est rejouée à l'endroit exact du drame. Il y a les témoins, les passagers de la Mercedes jaune que conduisait Naël. Une reproduction a été amenée et les deux policiers cagoulés, équipés de gilets pare-balles. Le brigadier, auteur du tir mortel, répète les gestes effectués, les mots exacts prononcés ce jour-là. Nina, une riveraine, a vécu cette reconstitution fermée chez elle.
J'ai entendu un petit peu les bruits. Alors je ne savais pas si c'était un coup de feu ou un impact, mais c'est triste parce que c'est un petit garçon que je connaissais. Tous les jours, je vois les fleurs. Tous les jours, je pense à ce petit garçon et pour plus que ça ne se reproduise en tout cas. C'était un choc pour tous les Nantarais en tout cas.
Dans le ciel, un drone survole le quartier sous cloche, quadrillé par des dizaines de CRS. Des médiateurs de la ville vont à la rencontre des jeunes comme José pour apaiser d'éventuelles tensions. Il veut enfin connaître la vérité.
Avoir plusieurs versions, ça ralentit justement l'enquête. Il faut vraiment éclaircir ça et que ce soit terminé. Je pense que ça fait trop longtemps et je pense que la famille, ils ont vraiment besoin de pouvoir faire leur deuil correctement. C'est un contrôle routier, voilà. Je pense que la mort aurait pu être évitée.
Peu à peu, le dispositif de sécurité est enfin levé. Les protagonistes repartent discrètement à bord de voitures aux vitres teintées.
Nicolas Burnan pour RTL.
Et ce matin, et pour la toute première fois, l'avocat de la mère de Naël prend la parole. Il a choisi RTL. Rendez-vous à 7h40 avec maître Nabil Boudi.
Une deuxième fusillade en moins de 48 heures à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Deux hommes connus pour trafic de stupéfiants étaient tués hier soir en pleine rue, à 2 km d'un premier règlement de compte entre narcotrafiquants qui a tué une personne.
7h02, il n'était pas venu en Europe depuis 2019, le président chinois en visite d'État en France jusqu'à demain.
Xi Jinping vient célébrer les 60 ans des relations diplomatiques entre les deux pays, commerce, sécurité, guerre en Ukraine. Les discussions s'annoncent musclées entre Emmanuel Macron et ce sulfureux homologue Bénédicte Tassard.
Il contrôle 1,4 milliard de personnes par les caméras à reconnaissance faciale qui pullulent en Chine, par l'assassinat des Ouïghours, des Tibétains ou encore en effaçant de la constitution chinoise, la limite à 2 mandats pour la présidence du pays. Xi Jinping, c'est le grand timonier de la Chine d'aujourd'hui. Et il n'a rien à envier à Mao en termes de brutalité et d'arrogance. Une enfance privilégiée au sein des princes rouges, comme on désigne la génération des enfants des proches de Mao. Un père tombé en disgrâce et voilà l'adolescent qui crève la faim et se voit obligé de travailler dans les champs. La famille réhabilitée, Xi Jinping peut enfin gravir, à force de détermination, tous les échelons du Parti communiste. Il épouse une vedette, une chanteuse des chœurs de l'Armée populaire de libération, et sa fille fréquente les universités américaines sous pseudo. Parce que pour Xi Jinping, l'ennemi, c'est bien l'Amérique. Son rêve, c'est que la Chine soit l'arbitre de la planète et sa préoccupation, c'est de maintenir la paix sociale chez lui en signant un maximum de contrats à l'export.
Bénédicte Tassard, chef du service international et dans le journal de 8h, RTL vous expliquera les enjeux de cette visite d'État. L'idée d'une trêve à Gaza se fragilise encore ce matin. Si le Hamas réclame la fin des combats, Israël est contre et ne veut bien que d'un cessez-le-feu temporaire. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, toujours déterminé à mener une offensive à Rafah au sud de l'enclave. Des frappes israéliennes y ont fait 16 morts cette nuit.
C'était l'événement politique du week-end, ce grand débat des européennes sur RTL.
Un grand jury, RTL, Le Figaro, M6, Paris Première, en présence des 7 candidats dont le parti est déjà présent au Parlement européen. Les échanges pendant 2 heures ont parfois viré, il faut l'avouer, à la cacophonie. Alors que faut-il en retenir, Julien Fautrin ?
Le premier extrait que j'ai choisi, c'est ce moment intéressant en tout début de débat. Intéressant, pas parce qu'on y comprendrait quelque chose, si vous arrivez à suivre, dites-moi, mais parce qu'ils sont quatre à se jeter sur Jordan Bardella, Valérie Ayé, Marie Toussaint, Raphaël Glucksmann, Manon Aubry. C'est Haro sur Bardella, lui qui a concentré la plupart des attaques.
Quel est le premier pays européen importateur de gaz russe ?
Vous me posez la question, monsieur Bardella. Ouais. Non, mais c'est l'hôpital qui se fout
de la France.
J'ai travaillé pendant les cinq dernières années, j'ai travaillé
cette
sur le gaz au Parlement européen.
Sur les questions de défense.
Défense en Europe aujourd'hui.
Si vous étiez un peu plus au Parlement européen, peut-être que.
Monsieur Bardella, vous avez déposé 21 amendements l'espace de 5 ans. Comment vous osez donner les choses ?
Je vous ai sélectionné dans un deuxième temps un petit florilège de mots doux. Voilà le vocabulaire qui a été choisi à plusieurs reprises.
Vous êtes le larbin des grands patrons.
Vous n'êtes pas patriote.
Vous avez sur votre liste des gens qui ont du sang sur les mains.
Vous êtes un agent de l'étranger.
Vous êtes un assisté, un menteur.
Bon, j'arrête là, je crois qu'on aura compris. Et enfin, j'ai conscience que c'est très anecdotique, écoutez ce tutoiement assez rare dans ce type de débat.
Raphaël, nous allons porter.
Honnêtement, on se connaît, tu ne peux pas faire ça.
Les échanges hors micro sont très cordiaux. Deux candidats aux opinions très éloignées ont attendu un taxi ensemble à la sortie du débat et semblaient presque amis. Ils se côtoient tous à Bruxelles, loin des projecteurs. C'est beaucoup plus apaisé qu'en France.
Julien Fautrat du service politique de RTL. Et parmi les candidats, vous l'entendiez, Valérie Ayé, la tête de liste de la majorité, présentera ce matin son programme avec près de 50 mesures. Et notamment, c'est une information RTL, un plan Marie Curie, une enveloppe commune de 10 milliards d'euros par an pour financer la recherche contre le cancer. La compagne de Kenji Girac sort du silence 2 semaines après le tir qui a blessé le chanteur. Elle affirme dans un entretien aux Parisiens ce matin qu'il va mieux, il est en convalescence. Et elle contredit les propos du procureur. Selon elle, il ne lui a jamais fait de chantage au suicide.
Il est 7h06, plus que 2 jours avant que la flamme olympique ne fasse son entrée en France, à Marseille.
Un événement qui sera à vivre sur RTL, journée et édition spéciale dès 18h mercredi. Le symbole des Jeux est pour l'instant en mer, à bord du Belém. Et en attendant son arrivée sur le Vieux-Port, place aux derniers préparatifs, Jean-Michel Rascol.
Après avoir fait du yo-yo sur une mer agitée au large de la Corse, le Belém file vers les côtes de la cité phocéenne. Thomas est l'un des 16 jeunes matelots qui participent à la traversée. L'équipage a déjà en tête son arrivée dans le Vieux-Port.
Alors, l'équipage se prépare mentalement déjà et puis je pense qu'ils ont hâte. Là, il nous fait manœuvrer les voiles un peu tous les jours pour l'arrivée à Marseille et la cérémonie qui nous attend au port de Marseille.
En attendant, la flamme olympique attire tous les regards sur le prestigieux trois-mâts.
Elle se balade de temps en temps sur le pont. On a des gardiens qui la surveillent, mais nous aussi, on a un œil sur elle quand même. On aime bien la regarder. C'est des souvenirs pour la vie, ça c'est sûr, et même pour l'éternité, je dirais.
Mercredi, Florent Manaudou sera le premier à porter la flamme, et c'est un grand relais qui traversera Marseille jeudi, avec des relayeurs tels que Jean-Pierre Papin, Basile Boli, Tony Parker, Soprano, ou encore Colette Cataldo, 83 ans, Mamie Colette, l'une des supportrices les plus emblématiques de l'Olympique de Marseille.
Très très beau casting. Jean-Michel Rascol, chef du service des sports de RTL. Et à 8h10, RTL vous expliquera comment sont sélectionnés les 11 000 porteurs de la flamme olympique qui vont sillonner le pays.
En rugby, Toulouse visera bien une 6e étoile européenne le 25 mai.
Le club en finale de Coupe des Champions après avoir battu en demi les Anglais d'Harlequins 38-26. Il faudra désormais faire tomber les Irlandais du Leinster. Le football argentin lui est en deuil avec la mort de César Luis Menotti à 85 ans, sélectionneur du pays, au moment de sa victoire à domicile en Coupe du Monde en 78. En France, Lille reçoit Lyon ce soir pour la 32e journée de Ligue 1 dans la course à l'Europe. Et puis toujours dans le Nord, mais en basket cette fois, ce petit miracle pour le BCM Gravelines Dunkerque. Près de 5 mois après l'incendie qui a ravagé sa salle et après un début de championnat chaotique, le club assure son maintien dans l'élite grâce à sa victoire samedi contre Boulogne-Levallois 106-76. L'histoire d'une résilience, Antoine Decarne.
Le club pensait avoir tout perdu dans cette salle de 25 000 mètres carrés réduite en cendres. Même le patron du BCM, Hervé Bédelem, n'imaginait pas s'en relever.
On n'avait plus rien, plus de maillot d'entraînement, plus de ballon, plus rien. C'était une tragédie. Comment on se redressait de ça ? Et cette histoire que le BCM vient d'écrire est exceptionnelle.
Car en plus, les Maritimes étaient bons derniers avec 10 défaites en autant de matchs. Aucune équipe dans l'histoire du basket français n'avait réussi à se maintenir.
L'accident, la tragédie du Sportica, ils en ont fait une force. C'est devenu une équipe de frères. Ça a transpiré sur le parquet pour sauver ce club.
Pour cela, ils ont dû s'entraîner dans dans une salle municipale, délocaliser les matchs à Calais ou à Dunkerque, c'était mission impossible pour Geoffrey Bailly, le président des Marines, le club des supporters du BCN.
C'est un miracle, c'est vraiment un miracle après tout ce qu'on a pu vivre. Quand on a vécu notre incendie de salle, le capitaine de l'équipe nous avait promis, ne vous inquiétez pas, on va se sauver, on va sauver le club. Aujourd'hui, il avait raison.
Avec cette 15e place de premier non relégable assurée, le club est sauvé. Un exploit inimaginable.
Antoine Decarne dans le Nord pour RTL en cyclisme. Tadej Pogacar enfile le maillot rose de leader du Tour d'Italie et remporte la deuxième étape de ce Giro. La Formule 1, premier Grand Prix de sa carrière pour le Britannique Lando Norris, vainqueur hier soir à Miami. Et puis, Paul Éluard lui a donné le nom d'un de ses poèmes les plus célèbres pendant la Seconde Guerre mondiale. À un mois des 80 ans de l'anniversaire du débarquement, RTL appelle les jeunes à rendre un hommage à la liberté. Tous les collégiens et lycéens de France sont invités à écrire 10 lignes sur ce que représente pour eux la liberté. L'élève vainqueur lira son ode à la liberté sur RTL le 6 juin. Le texte est envoyé par mail à liberté-sans-accent@rtl.fr.
C'est une très belle initiative. On va terminer avec les courses qui ont lieu à Vichy, Hortense.
Et le départ, c'est à 13h55. Les pronostics de Dominique Cordier, le 12, le 11, le 9, le 15, le 6, le 10, le 14. L'outsider de RTL, le 11.
Qui s'appelle J'aime le foot. Et donc, pour célébrer votre anniversaire, chère Hortense, nous écoutons vous qui êtes supportrice de l'OM. Évidemment, ce qu'on entend dans le stade chaque semaine, à chaque fois qu'ils interviennent.
Bon, c'est mon plus beau cadeau, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup.
Très heureux anniversaire, Hortense Crépin.
Il est 7h11 sur RTL. Dans un instant, deux rendez-vous à ne pas manquer. D'abord, ce procès qui s'ouvre aujourd'hui, le procès du baiser de la mort. L'histoire incroyable de cette surveillante de prison devenue complice de la brise de mer. Elle désignait ses cibles en les embrassant. Plana Radenovic, et c'est l'événement ce matin sur RTL, a pu échanger avec elle.
Et ensuite, William Galibert, vous faites le bilan du débat d'hier.
Figurez-vous qu'on a vraiment parlé d'Europe dans un débat.
Mon Dieu.
C'est assez rare pour être signalé et pour être salué.
À tout à l'heure. RTL.
Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagnée.
Tout est prêt pour votre déménagement, Linda ?
Non, Cerise, j'ai oublié l'assurance habitation. Avec mon budget, je peux pas payer cher et j'ai peur de pas être bien couverte.
Chez Groupama, vous pouvez économiser en moyenne 149 € sur votre contrat habitation et profiter des mêmes garanties.
Vous savez me parler, Cerise.
Nos conseillers aussi, et ils sont disponibles en agence à moins de 15 minutes de chez vous.
Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Économie moyenne déclarée à garantie équivalente par des clients ayant souscrit en 2022. Étude Ipsos 2023. Plus d'infos sur groupama.fr.
À tous ceux qui préfèrent les tortillas aux simples chips, à ceux qui préfèrent le guacamole à la rillette, et à ceux qui préfèrent les faritas aux sandwich. Dès mardi, Intermarché offre 34% en avantage carte sur le fût de 5 litres de bière aromatisée originale Desperados, soit 13,53€ avantage carte déduit. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 20 mai, 20,50€ prix payé, 4,10€ le litre, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Peugeot. Nous prenons en moyenne 35 000 décisions par jour. On ne sait pas vous, mais chez Peugeot, on trouve que ça fait beaucoup. C'est pourquoi nous lançons le nouveau Peugeot 3008 hybride. Plus besoin de choisir entre électrique et thermique. Sobre et dynamique, il permet de rouler jusqu'à 50% du temps en électrique en ville et d'économiser jusqu'à 30% de carburant. Venez le découvrir en concession ou sur Peugeot.fr. C'est sans doute la meilleure des 35 000 décisions que vous prendrez aujourd'hui.
Suivant état de charge de batterie, style de conduite versus une motorisation thermique. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, ils ont la côte.
La côte.
Et l'entrecôte, oui. En ce moment, l'entrecôte est à 3,89€ les 180 grammes au lieu de 4,99€.
3,89€ l'entrecôte. Oh la vache.
Et française la vache. À moins 22%, ça cesse déguster, non?
Ah ça, tu vas déguster, ouais.
Lidl, trop fort sur les prix, et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 21,61€ le kilo, origine France. Offre valable jusqu'au dimanche 12 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr.
J'ai commencé à prendre
RTL événement.
Et l'événement ce matin sur RTL, c'est donc ce procès qui s'ouvre aujourd'hui à Aix-en-Provence, le procès du baiser de la mort. L'histoire complètement incroyable de cette surveillante de prison accusée d'avoir désigné deux victimes d'assassinat en les embrassant. Bonjour Plana Radenovic.
Bonjour.
Vous avez, c'est assez exceptionnel, pu échanger avec cette femme, elle s'appelle Cathy. Avant d'entendre son témoignage. Racontez-nous ce qui s'est passé ce 5 décembre 2017.
Alors, c'est une vraie scène de film. Il est environ 11h20. Une femme très grande, aux longs cheveux bruns, se précipite vers un homme dans le hall des arrivées. Elle l'embrasse. Elle, c'est Cathy, 41 ans, originaire du Nord, elle est surveillante à la prison de Borgo. Lui, c'est Jean-Luc Codaccioni, un Corse. Il est incarcéré dans cette même prison où les frontières entre personnel et détenus sont connues pour être floues. Là, il rentre d'une permission de sortie et surtout, Codaccioni fait partie d'une organisation mafieuse de l'île issue du gang de la Brise de Mer. À ses côtés, Antoine Kilikini, c'est un autre mafieux en liberté, lui, venu chercher son ami à l'aéroport. Ce baiser, c'est le signal donné par Cathy au tueur pour identifier leur cible. Quelques minutes plus tard, les deux hommes s'effondrent, criblés de balles.
Alors, comment cette femme a-t-elle pu basculer ?
Oui, ça apparaît vraiment dans ma correspondance avec elle, engagée il y a près de 2 ans à ma demande. Elle est corsicalisée. C'est le terme employé par l'expert psychologue. Et ça veut dire fascinée par la Corse. Voici ce qu'elle m'écrit, la lettre est lue par une journaliste de RTL.
J'ai commencé à apprendre le corse par mes détenus. Faut les entendre parler d'elle. Qu'est-ce qu'ils en sont fiers? Comment ne pas tomber amoureuse? Mon activité préférée est mon apprentissage de tout ce qui concerne la Corse. Elle est ma passion. Tout ce qui peut me rapprocher d'elle me contente.
Comment cette femme normale a-t-elle pu jouer un rôle si fondamental dans la criminalité organisée? Ce sera aussi l'un des enjeux du procès, selon son avocat Renaud Portejoie.
Comment on en arrive en étant mère de famille, représentant l'autorité en qualité de surveillante pénitentiaire, à se retrouver subjugué par le milieu mafieux et à participer de façon active à un projet criminel. C'est la vraie question et je pense que de ces réponses, des réponses qui seront apportées par la cour d'assises, dépendra la peine qui sera prononcée.
Alors, des gens fascinés, amoureux de la Corse, il y en a des milliers, des dizaines de milliers. Comment explique-t-elle être allée au-delà ?
La base de tout ça, c'est l'ennui. Cathy dévore des séries comme Mafiosa, des polars. Elle suit des cours de criminologie. Son mari est dépressif. La routine familiale ne la fait pas rêver. Elle s'installe en 2014 sur l'île. Elle me l'écrit sur les conseils d'un détenu corse.
Un détenu corse de Paris La Santé, où je travaillais à cette période, m'a dit que là-bas, c'est l'enfant roi. Mon fils était harcelé à l'école et j'ai vu la différence. En Corse, il souriait, avait des amis, il était heureux.
À la prison de Borgo, la surveillante noue une amitié particulière, me décrit-elle, avec un détenu lui aussi particulier, c'est Ange-Marie Michelosi. Ce dernier, qui sera cet après-midi dans le box des accusés à ses côtés, est engagé dans un projet de vendetta.
Bon, et elle assume son acte ou elle explique avoir été manipulée?
Alors c'est compliqué, l'expert psychiatre parle d'emprise, mais Cathy, elle, refuse de perdre la face. Si elle admettait avoir tout perdu, risquer la réclusion criminelle à perpétuité et avoir été instrumentalisée, elle risquerait de s'effondrer psychiquement. Voici ce qu'elle m'écrit.
Je ne suis pas une personne qui parle beaucoup. Question sentiment, je suis pudique. Mais sachez que ma conscience, elle, est bavarde. Elle regrette le mal fait à des gens qui ne lui ont rien fait. Mais je suis lucide aussi. Et la seule chose que je puisse faire est d'assumer mes faits. Aucun retour en arrière n'est possible.
Dans ses lettres, elle se projette dans cette salle d'assises d'Aix-en-Provence. Elle dit redouter le moment où elle va croiser le regard des familles des victimes. Un regard qui restera gravé dans sa mémoire comme celui des deux hommes assassinés à Bastia-Porreta.
Et ce procès donc commence aujourd'hui. Il doit durer jusqu'au 5 juillet, soit 2 mois. Merci beaucoup, Plana Radenovic. Cathy, l'ex-gardienne de prison, risque-t-elle la réclusion criminelle à perpétuité.
RTL 7h17.
RTL Matin.
Bonjour William Gallic.
Bonjour.
C'est l'événement politique du week-end, le grand débat des européennes hier, donc sur RTL et Paris Première. Les 7 principales têtes de liste réunies pour la toute première fois. Vous en avez tiré un grand vainqueur et 3 grandes leçons.
Oui, alors je suis un peu filou pour le grand vainqueur. Vous attendez peut-être le nom d'un candidat. Ben non, le vainqueur, c'est le débat européen. Vous allez dire, c'est nul. Mais je vais un peu argumenter. Enfin, une émission où on ne demande pas à un eurodéputé ce qu'il pense d'Aya Nakamura ou s'il veut un couvre-feu pour les adolescents. Incroyable, c'est une élection européenne et on leur a parlé d'Europe. Devinez quoi ? Ils avaient plein de choses à dire sur l'écologie, la Russie, sur l'immigration. On a compris ce qui les opposait, on a même saisi des nuances entre les candidats du même camp, sans que ça soit incompréhensible, sans que ça soit barbant. Et en plus, c'était sur RTL, donc il fallait le dire.
Alors venons-en maintenant aux leçons de ce débat.
D'abord, et on l'a entendu dans le journal de 7h, plus vous attaquez vos adversaires, plus ça les met en valeur. Ça, certains ne l'ont toujours pas compris. Vous avez 6 candidats hier qui ont pris la moitié de leur temps de parole pour s'attaquer à Jordan Bardella, le traitant de menteur, de fainéant, de pro-Poutine, de TikToker et j'en passe. C'est bien d'avoir quelques flèches à lancer, on en veut. Mais quand vous avez l'air obsédé par un seul homme, ça montre surtout que c'est lui qui mène la danse. D'ailleurs, l'écolo Marie Toussaint et l'insoumise Manon Aubry ont fait un petit peu pareil en attaquant le socialiste Raphaël Glucksmann, qui comme par hasard est en tête à gauche. Le résultat, c'est qu'on a l'impression que tout ce débat s'est articulé autour de ces deux-là, Glucksmann et Bardella.
Alors, votre leçon numéro 2, c'est qu'Emmanuel Macron va sérieusement devoir mettre les mains dans le cambouis.
Ça tombe bien, il l'a dit dans une interview à la Tribune dimanche. Il a dit qu'il voulait s'impliquer dans cette campagne. Sa candidate Valérie Ayer est une bosseuse sérieuse, courageuse d'avoir accepté le job, mais c'est léger. Elle a du mal à se décoller de ses fiches, parfois hésitante, même pour nous expliquer très simplement la position du chef de l'État. Donc, elle n'apportera aucun point supplémentaire à son camp. 50%, la moitié des électeurs d'Emmanuel Macron en 2022 ne veulent pas voter pour lui en juin. Et eux, Valérie Ayer, ça ne les intéresse pas. Donc c'est le président qui va devoir aller les rechercher avec les dents. Sinon, ça ne sera pas une défaite, mais une déculottée le 9 juin.
Enfin, leçon numéro 3, en bas de tableau aussi, il risque d'y avoir de la casse.
François-Xavier Bellamy pour LR, Marion Maréchal pour Reconquête, Marie Toussaint pour Les Verts, Manon Aubry pour Les Insoumis. Tout ce petit monde se balade entre 5 et 8% dans les sondages. Il faut 5% minimum des voix pour envoyer des élus à Strasbourg. On sait que les choses ont tendance à se polariser en fin de campagne. Il y a le risque du zéro pointé pour les Républicains, pour Éric Zemmour. Et puis bonne chance ensuite pour se relancer vers 2027.
Eh bien, vous nous ouvrez des perspectives. Merci beaucoup, William Galibert.
Il est 7h20. Dans un tout petit instant, on vous emmène au Vietnam à l'occasion des 70 ans de Dien Bien Phu. Laurent Deutsch revient sur cette grande défaite de l'Empire colonial français. C'était en 1954. Et au milieu de cette tragédie, un ange et un médecin. À tout de suite.
RTL Matin.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Vouloir un enfant et avoir des jumeaux, oui, ça arrive. Découvrir qu'ils veulent faire la même école de commerce, oui, ça arrive.
Au fait, papa, notre école, elle est au Canada.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie, AG2R, la mondiale, vous accompagne pour définir l'épargne la plus adaptée à vos besoins futurs. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R, la mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
La vie claire.
Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût? En ce moment, chez La Vie Claire, profitez de moins 15% sur tous nos pains bio, dont nos 22 recettes exclusives. Et dès 30 euros d'achat, on vous offre un pain sportif. Alors, ça vaut le goût ou pas?
La Vie Claire, la bio clairement engagée.
Offre limitée à une personne et par foyer. Voir conditions sur laviclaire.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Amazon offre jusqu'à 8000 euros pour la formation professionnelle. Grâce à cela, Daniel a suivi une formation de développeur logiciel. Maintenant, il considère le son de son clavier comme la plus belle musique qui soit. En 2 ans, il est passé de préparateur de commandes au métier de ses rêves. Et même son fils trouve qu'il se débrouille pas si mal en codage. Ce qui n'est pas peu dire de la part d'un adolescent. Chez Amazon, nous sommes engagés envers la formation et l'évolution des carrières. Sous condition d'éligibilité.
RTL. Entrée dans l'histoire.
Bonjour Laurent Deutsch.
Bonjour Amandine, bonjour Yves.
Il y a 70 ans, au mois de mai 1954, les forces françaises retranchées dans la cuvette de Dien Bien Phu, au Vietnam, s'apprêtaient à céder devant les attaques du Viet Minh.
Eh oui, la bataille faisait rage depuis presque 2 mois et les troupes d'Ho Chi Minh harcelaient les bataillons français. C'était l'aboutissement d'un long processus. Dès 1945, le Viet Minh, ce mouvement nationaliste fondé par le Parti communiste indochinois, avait pris le contrôle d'une grande partie du territoire vietnamien et il ne lui restait plus qu'à se débarrasser des dernières forces françaises. Les Viet Minh ont donc attaqué Dien Bien Phu avec des canons chinois transportés par des véhicules soviétiques. L'Indochine française vivait ses derniers instants.
La présence française en Extrême-Orient était déjà ancienne.
Alors ce qu'on a appelé l'Indochine regroupait en fait le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Cet empire colonial a connu ses heures de gloire quand le Second Empire exploitait là-bas l'arbre à caoutchouc, le minerai ou le riz tout en construisant d'imposants bâtiments administratifs. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les Cambodgiens racontent que le palais royal de Phnom Penh a été bâti avec les restes du chantier de l'Opéra Garnier à Paris. Une légende urbaine sans doute, mais qui montre bien le souvenir toujours vif de la présence française.
Bon, ce qui est sûr, c'est que tout ça a pris fin à Dien Bien Phu dans un affrontement terrible.
La cuvette de Dien Bien Phu, c'était la boue, le sang, les cris. Mais de ce drame ont émergé deux figures inoubliables qui ont apporté aux blessés des deux camps un souffle d'espoir. Deux sentinelles de générosité et de courage qui n'ont cessé de veiller sur les blessés et qui ont distillé un peu de réconfort dans cet océan de souffrance.
Deux figures en fait devenues légendaires.
Je vous présente le médecin commandant Paul Grosvin, surnommé le Toubib, et son infirmière Geneviève de Galard, l'ange de Dien Bien Phu. Quand le docteur Grosvin est arrivé à Dien Bien Phu pour tenir l'antenne chirurgicale quelques semaines avant la bataille, un vieux briscard qui avait connu les tranchées de la Première Guerre mondiale l'avait prévenu « S'il y a une grosse bagarre ici, mon vieux, vous ferez un recul de 40 ans et vous n'en sortirez pas. »
Mais pourquoi a-t-il fait ce sombre pronostic ?
Bien parce que l'antenne chirurgicale de Dien Bien Phu, c'était des salles mal équipées, avec du matériel dérisoire. Et quand la grosse bagarre a été déclenchée le 13 mars, le docteur Grosvin a opéré les blessés avec de la boue jusqu'au mollet et la cigarette aux lèvres. Il fallait fumer pour chasser l'odeur du sang et de la mort.
C'est Verdun sous les tropiques.
Ah oui, l'enfer. Pendant deux mois, sous un déluge de bombes, il a opéré plus de 4000 combattants, aussi bien français que vietnamiens, dans des conditions atroces, avec des scies pour amputer et pas de médicaments, même pas d'eau potable. À ses côtés, nous avions donc Geneviève de Galard, une jeune volontaire de 28 ans, la seule femme sur place, qui passait tout son temps à réconforter les blessés, à les soutenir. Elle accomplissait cette tâche impossible d'aider les mutilés à surmonter leur douleur.
C'est à la fois tragique et passionnant. Demain, du coup, on va encore parler de Dien Bien Phu.
Oui, cette fois, j'évoquerai les drames qui ont suivi la défaite française, mais l'accueil triomphal qu'ont reçu en France notre Toubib et notre ange de Dien Bien Phu.
À demain donc.
À demain.
Il est 7h25 sur RTL. Dans 5 minutes, le journal. Et à la une, cette nouvelle fusillade hier à Sevran, en Seine-Saint-Denis. La deuxième en seulement deux jours. Deux hommes de 31 et 35 ans ont été tués. Deux individus connus pour trafic de stupéfiants. L'autre image du jour, c'est l'arrivée du président chinois en France. Il est arrivé hier soir. Doit être reçu ce matin à l'Élysée avant un dîner d'État ce soir à 7h35. François Langlais nous donnera trois chiffres qui vous feront voir la Chine sous un autre jour. C'est peut-être le moment ou jamais pour la France de prendre la main, nous dira François. Côté météo, Marina Giraudot, c'est toujours bien agité, mais le retour du beau temps
arrive
pour mercredi, ça se confirme.
Mais oui, ça se confirme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne sera pas le cas.
On patiente. On patiente.
Et pour patienter, de 15h30 à 18h, nous retrouvons la bonne humeur de nos grosses têtes sur RTL. On réécoute les meilleurs moments de l'émission avec les anecdotes aériennes de Jean-Philippe Janssen.
Moi, j'ai eu plusieurs fois le couple Giscard d'Estaing à bord.
Je me souviens très bien.
Ah, oui, quand j'ai commencé, je commençais d'une petite compagnie qui s'appelait Air Littoral et il y avait une ligne Paris-Clermont-Ferrand en Fouquier-Sant. Et donc,
attendez, vous avez été steward sur Paris-Clermont-Ferrand.
Ben quand j'ai commencé, oui.
Et vous avez le décalage horaire, ça c'est pas trop.
J'ai du mal à gérer le jet lag. Ah, oui.
Mais vous serviez un repas à combien de couverts?
Ah oui, non, mais c'était compliqué parce que comme c'était une petite compagnie et qu'il n'y avait pas forcément les moyens d'adapter le service selon la durée du vol, on avait.
L'animal n'avait pas le temps de s'épanouir. Hein.
Non, mais qu'on ait 45 minutes de vol ou 3 heures, c'était le même service. Donc on leur jetait les plateaux à la gueule.
Ton dernier vol, c'était quoi? La dernière fois que t'as été
dans un Monoprix.
On les retrouve bien sûr dès 15h30 sur RTL. Et puis je vous rappelle que Laurent Ruquier et ses grosses têtes seront la semaine prochaine, le mercredi 15 mai, au Lido de Paris. Émission exceptionnelle, enregistrée depuis le cabaret mythique des Champs-Élysées. C'est gratuit et il reste des places. Alors inscrivez-vous, vous pouvez le faire dès maintenant, dès ce matin. Rendez-vous sur le site Lido 2, le chiffre 2, paris.com.
RTL. Pour profiter de l'été, Batiman, spécialiste de la protection solaire, installe chez vous store pergola brise-soleil sur mesure et motorisé.
Marina Giraudot, en attendant que ça s'arrange a priori en milieu de semaine, on a encore une journée très perturbée. Hein.
Ah oui, parce qu'on a une perturbation pluvieuse qui a traversé le pays et elle a commencé hier sur l'ouest. Là, en ce moment, elle se trouve essentiellement sur les régions de l'est jusqu'à l'Occitanie, hein, donc du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et donc en plus l'Occitanie. C'est là où on a le plus de pluie. Il y a juste la Corse qui échappe à ce mauvais temps. La Corse qui aura un temps sec toute la journée. C'est la seule région qui n'aura pas d'averse. Mais le ciel sera voilé. Et puis à l'arrière, on a un ciel de traîne. Donc un ciel après une perturbation qui est assez actif. Donc il y a quelques averses qui traînent. Moins que sous la perturbation, mais quand même. Oui. Et puis surtout, il y a une deuxième qui est arrivée. Là, une deuxième perturbation, une goutte froide là, de l'air froid en altitude. Donc qui donne un ciel nuageux et pluvieux sur la Bretagne. Ça donnera aussi des orages et ça va concerner une bonne partie du pays d'ici à la fin de la journée. Bon, tout ça va donner
connaît globalement un moment ou l'autre des averses. Oui. Hein. À part la Corse, personne ne va y échapper. Il y aura des orages aussi ponctuellement, donc plutôt de la Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine en cours d'après-midi. Et puis aussi vers le sud de Rhône-Alpes ou encore vers l'est des Pyrénées, quelques impacts de foudre possibles. Puis de la neige aussi, bon, à 2000 mètres d'altitude quand même, mais toujours possible sur les Pyrénées et les Alpes.
Vous nous expliquez cette histoire de gouttes froides ?
C'est de l'air froid en altitude en fait.
Ah oui, ouais, d'accord.
Tout simplement.
Bon, donc ça, dès qu'on est en montagne, on se la prend sur le...
Non, c'est de l'air froid qui arrive chez
nous. Ah, qui descend directement.
Et comme en basse couche, il y a des températures plus douces, eh bien ça donne des orages. Il y a un conflit de masse d'air entre l'air froid qui est en altitude et l'air un peu plus doux qui est en basse couche.
Merci pour toutes ces précisions. Vous nous confirmez que ça va s'arranger en milieu de semaine ou c'est juste une...
Ah non, ça va s'arranger. On y va progressivement, mardi et mercredi. Puis à
partir
de... On
revient en parler de temps à autre.
Jeudi et puis pour le week-end, que du bonheur.
Et c'est un grand week-end, on le rappelle.
Ouais,
hein,
ça tombe bien.
Mercredi et jeudi sont fériés et les enfants font le pont.
RTL, il est 7h30.
Amandine Bégaud.
RTL Matin jusqu'à 9h.
Et le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. À la maison ou au boulot, mais pas à la plage. C'est une info RTL, vous serez moins nombreux que d'habitude à partir en vacances cet été. C'est ce que révèle le sondage annuel d'Opinionway pour le comparateur de voyages Liligo. 4 Français sur 10 ne feront pas leur valise, Nathan Bocard.
Exactement, 40% des Français interrogés qui ne prendront pas de congé cet été, c'est 3 points de plus que l'an dernier. Et c'est aussi la première fois en 4 ans que ce chiffre augmente. Pourquoi ? L'une des pistes, bien sûr, c'est l'inflation. 6 Français sur 10 disent qu'elle a un impact important sur leurs réservations. Et puis pour près de la moitié des interrogés, la tenue des Jeux Olympiques en France joue sur leurs décisions. Alors ils partiront moins, certes, mais ceux qui partent dépenseront plus. Selon le sondage, le budget moyen prévu par les vacanciers, il est d'un peu plus de 1200 euros pour l'été. C'est presque 100 euros de plus que l'an dernier. Enfin, l'étude nous apprend que les Français vont délaisser un peu la voiture. Alors, elle reste quand même le moyen de transport préféré de 7 Français sur 10 pour les vacances. Mais c'est un peu moins que les années précédentes. En revanche, ils sont un peu plus nombreux à prendre l'avion et surtout plus nombreux à prendre le train. Une explication à cela, l'écologie. Un tiers des Français prend en compte l'empreinte carbone au moment d'organiser les vacances.
Et pour rouler tout en polluant moins, le gouvernement et la filière automobile s'engagent ce matin à multiplier par 4 les ventes de voitures électriques d'ici 3 ans. Objectif 800 000 ventes en France d'ici 2027.
RTL 7h32, il est 3 morts, pardonnez-moi, en 2 jours. Nouveau règlement de compte hier soir à Sevran près de Paris.
2 hommes connus pour trafic de drogue ont été abattus en fin de journée à 2 km à peine d'une première fusillade qui avait fait un mort et 6 blessés vendredi soir. Des règlements de compte sans doute liés aux opérations anti-drogue menées depuis plusieurs semaines selon le préfet de police Laurent Nunez qui s'est rendu sur place dans la soirée.
Moi je suis venu surtout pour rassurer les élus, aussi les habitants de Sevran, pour dire qu'on sera présent en termes de sécurisation. Puis aussi, on va poursuivre les investigations judiciaires pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Alors évidemment, on a conscience que quand on fait ça, on déstabilise le trafic, on crée des convoitises et parfois, il y a des affrontements entre bandes de criminalité organisée pour récupérer des territoires, d'où un certain nombre de règlements de compte qui se traduisent par des homicides. Mais on va quand même continuer, et moi je suis venu ce soir ici pour rassurer tout le monde, on va continuer cette action et de sécurisation et d'investigation judiciaire en profondeur. Il y a encore beaucoup de batailles à gagner, mais c'est une guerre qui est loin d'être perdue et on la mène avec beaucoup de détermination.
Un propos recueilli par Thomas Proutot qui nous indique par ailleurs, et c'est une info RTL, qu'un jeune homme de 17 ans a été abattu hier soir à Marseille dans un nouveau règlement de compte. Ça s'est passé dans le quartier de la Rose, dans le 13e arrondissement. 10 mois après la mort de Naël, tué par un tir policier à Nanterre, la reconstitution organisée hier a-t-elle permis de faire avancer l'enquête ? L'avocat de la mère de Naël, qui était présent sur place, sera l'invité d'Amandine Bégaud dans moins de 10 minutes. C'est sa toute première interview.
À l'international, toujours pas de trêve en vue à Gaza.
Une réunion d'urgence doit avoir lieu aujourd'hui au Qatar pour tenter de sortir de l'impasse. Le Hamas, comme Israël, se montre pour l'heure inflexible, Émilie Beaujard.
Oui, chacun s'accuse mutuellement de saboter les efforts de trêve. Là où ça coince, c'est sur l'arrêt des combats. Le Hamas réclame la fin de la guerre contre la libération des otages. De son côté, Benjamin Netanyahou ne veut qu'un cessez-le-feu temporaire. Hier, il a réaffirmé son opposition à la fin de la guerre, car il estime que cela permettrait au Hamas de se maintenir au pouvoir. Pas de concession en vue, donc. La délégation du Hamas est repartie du Caire hier soir. Tous les espoirs ne sont pas encore perdus. En coulisses, des discussions vont encore avoir lieu au Qatar et des représentants du Hamas pourraient revenir en Égypte demain. Mais une offensive sur Rafah semble désormais inéluctable, alors que plus d'un million de Gazaouis sont réfugiés dans cette ville, sans possibilité d'aller ailleurs dans un endroit sûr.
Et ce matin d'ailleurs, l'armée israélienne encourage, je la cite, les habitants de l'est de Rafah à se rendre dans les zones humanitaires. Elle assure qu'il s'agit là d'une opération d'ampleur limité. Le président chinois Xi Jinping est en France pour une visite d'État de 2 jours. Cérémonie d'accueil en grande pompe cet après-midi aux Invalides. Banquet ce soir à l'Élysée. Mais avant cela, un entretien ce matin avec Emmanuel Macron. Il sera notamment question des tensions commerciales et de la guerre en Ukraine.
Le grand 8 pour les Toulousains.
Ils se sont qualifiés hier pour la 8e finale de leur histoire en Champions Cup. C'est du rugby, bien sûr. Victoire 38-26 chez eux au Stadium face au club anglais des Harlequins. Le manager Hugo Mola ne boude pas son plaisir.
C'est des moments importants pour le club, parce que même si on fait partie des clubs qui ont eu l'occasion d'en vivre pas mal, c'est jamais rien de jouer une demi-finale à domicile, et particulièrement dans cette enceinte et avec ce public-là. Donc merci encore à tous nos supporters. Merci aux joueurs qui ont fait le nécessaire pour être à ce rendez-vous-là. Et puis, ne boudons pas notre plaisir de jouer une finale de Coupe d'Europe dans 3 semaines.
Et dans 3 semaines, le 25 mai prochain, ce sera face à leurs meilleurs ennemis qu'ils joueront le titre, les Irlandais du Leinster, qui les ont éliminés lors des 2 éditions précédentes.
Merci beaucoup Sébastien Rouxel, on vous retrouve à 8h30.
À tout à l'heure.
Le président chinois est arrivé en France hier, Sébastien nous l'expliquait il y a quelques instants, et François Langlais va nous donner 3 chiffres surprenants, 3 chiffres pour mieux comprendre pourquoi la Chine connaît un véritable déclin. J'ai bien dit déclin. À tout de suite pour l'Angle Écho sur RTL.
7h, 9h, RTL Matin. Et maintenant, parlons aide à domicile dans l'instant Petit-Fils.
Bonjour Hervé Morel-Boisard. Alors, chez Petit-Fils, vous êtes responsable de secteur à Lille. Vous êtes à l'écoute de vos clients et de leurs aidants que vous suivez au quotidien. Mais de quelle manière?
Eh bien, nous appelons régulièrement nos clients ou leur famille toutes les semaines le premier mois, puis une fois par mois. On revient chez la personne aidée pour s'assurer que la mission est en adéquation avec ses besoins, pour réadapter la mission à une éventuelle évolution de l'état de santé. Et on s'assure toujours que la qualité des services effectués par l'auxiliaire de vie sont en adéquation avec les besoins des personnes aidées. Et c'est toujours le même responsable de secteur qui fait ce suivi satisfaction. C'est important et c'est une des particularités de Petit-Fils.
Merci Hervé Morel-Boisard. Et puis pour en savoir plus, rendez-vous dans l'une des 270 agences Petit-Fils partout en France.
À bientôt pour un nouvel instant Petit-Fils.
Quand vous avez un bris de glace, ça vous paraît compliqué à gérer? Avec Carglass, c'est simple. Allez direct sur carglass.fr. En quelques clics, vous lavez votre rendez-vous. Comme on est agréé par la plupart des assureurs, on vous accompagne dans les démarches avec votre assurance. Et comme la majorité de nos clients, il n'y a pas de franchise à payer. Oui, oui, 0 franchise. En plus, jusqu'au 10 mai, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre des balais d'essuie-glace Bosch. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
On vous écoute, mademoiselle.
Merci, monsieur Géniaud. En ce moment, pour l'achat d'une véranda Rénoval, la TVA est offerte. Ma véranda, c'est Rénoval.
Point final.
Conditions sur Rénoval.com.
Julien est un électricien sympa qui, dans son métier, fait des étincelles. Ce n'est pas parce qu'il est sur un fil en termes de budget qu'il ne voit pas grand pour son fourgon. Alors fini les prises de tête. Fiat Ducato, Easy Pro suréquipé, une disponibilité immédiate, un prix unique de 24 900 euros hors taxes et une garantie de 160 000 km ou 4 ans.
Si vous avez besoin aujourd'hui d'un fourgon, Fiat Professionnel est la solution.
Prix remisé pour Fiat Ducato Easy Pro valable au professionnel dans le réseau participant jusqu'au 31 mai. Détails sur fiatprofessionnel.fr.
Fiat Professionnel, professionnel comme vous.
RTL Matin.
L'Angle Écho avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Cher François, Xi Jinping, le président chinois, est donc arrivé à Paris hier, mais c'est le président d'une Chine déclinante que nous accueillons.
C'est vrai, l'empire du milieu n'est plus ce qu'il était quand il s'imaginait devenir la première économie mondiale et ambitionnait de gouverner la planète. C'est désormais un pays affaibli, et pour longtemps. 3 chiffres en témoignent. Le premier, c'est le plus important, la part de la Chine dans l'économie mondiale diminue pour la première fois depuis un demi-siècle, depuis l'époque de Mao. En 2021, la Chine comptait pour 18,4% du PIB mondial, c'est 17% aujourd'hui, bien moins que les États-Unis.
Mais excusez-moi, comment est-ce possible? La Chine est toujours en croissance, non?
En fait, beaucoup moins qu'ailleurs. Près de la moitié de la croissance mondiale est faite par les États-Unis, on n'a pas ça en tête, et la seconde moitié, majoritairement par les autres émergents. L'Inde, l'Indonésie, le Mexique, le Brésil. La géographie de la croissance s'est déplacée après avoir privilégié la Chine pendant plusieurs décennies.
Mais pourquoi? Expliquez-nous.
Deux éléments. Un, les erreurs faites par Xi Jinping, et en particulier cette politique zéro Covid qui a congelé l'économie, vous vous souvenez? Et puis la campagne contre les milliardaires, contre le business. Deux, l'effondrement démographique du pays, c'est bien sûr le plus important. Pour vous donner un seul chiffre, le nombre d'actifs en Chine diminue de 7 millions de personnes par an à cause du vieillissement de la population. Incroyable. Et moins d'actifs, c'est moins de croissance. Mm-hmm. Et en plus, ça ne fait que commencer. Dans 20 ans, la Chine sera un gigantesque EHPAD.
Bon. Et les tensions avec les États-Unis n'ont pas joué ?
Si, si, bien sûr. Tensions, en fait, avec tout l'Occident, oui. Qui voit désormais la Chine comme un ennemi indirect parce que c'est l'allié de la Russie. Et qui redoute une invasion de Taïwan par Pékin. C'est ce que reflète mon deuxième chiffre. Les investissements étrangers en Chine étaient l'année dernière de 30 milliards d'euros, une chute de 82% par rapport à l'année précédente, et le montant le plus faible depuis 1993, il y a 30 ans. C'est le raidissement politique du régime qui explique ce désamour des investisseurs. L'alignement de la Chine sur Moscou et puis son antagonisme avec les États-Unis en font désormais un pays risqué.
Alors, quel est le dernier chiffre dont vous souhaitiez nous parler ?
C'est celui, non pas de l'inflation, mais de la déflation. Alors que le monde entier connaît une flambée de la hausse des prix, la Chine subit une baisse des prix à la consommation. Depuis 5 mois, entre 1 et 2%. Et c'est même pire pour les voitures. Baisse de 5%. Pire encore pour l'immobilier, qui a baissé bien davantage. C'est le symptôme d'une économie malade, percluse de dettes à cause de la crise immobilière et puis de la montée du chômage, en particulier le chômage des jeunes. Pékin a d'ailleurs arrêté de publier l'indicateur.
Au total, pour nous, une Chine affaiblie, c'est une bonne nouvelle.
C'est bien sûr la question importante. Oui. Face aux difficultés, une dictature peut bien sûr se lancer dans l'aventure militaire, l'invasion de Taïwan évidemment, pour détourner l'attention du peuple et ainsi devenir plus dangereuse. Dans le cas de la Chine pourtant, ça n'est pas le scénario le plus probable. Une Chine moins assurée au plan économique, plus fragile, sera sans doute plus prudente dans sa confrontation avec l'Occident et plus encline au compromis. C'est le bon moment pour lui tenir tête et pour exiger des contreparties à l'ouverture de nos marchés européens.
Tout cela est absolument passionnant. Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve bien entendu sur le site et sur l'application RTL.
Il est 7h40 sur RTL. Dans un tout petit instant, l'avocat de la mère de Naël, ce jeune homme de 17 ans tué par un tir policier après un refus d'obtempérer. C'était le 27 juin dernier à Nanterre. C'est ce drame, souvenez-vous, qui avait déclenché plusieurs jours d'émeutes. Bonjour Maître Boudy.
Bonjour madame.
Et bienvenue sur RTL. Merci d'être en studio avec nous ce matin. C'est la première fois, je le précise, que vous faites une interview vraiment sur ce dossier en prenant le temps comme ça en direct. Vous étiez hier à Nanterre pour cette reconstitution organisée en présence de l'ensemble des protagonistes. Là aussi, c'était la première fois qu'ils étaient tous réunis. On va y revenir dans le détail, mais juste d'un mot, ça a été utile ou pas ?
Oui, oui, une reconstitution est toujours utile en termes de manifestation de la vérité. Encore plus sur un tel dossier, compte tenu de sa nature, compte tenu de sa configuration et surtout compte tenu du nombre d'acteurs qui a pu assister à cette scène. C'était important que ces mêmes acteurs soient réunis sur ce lieu, puisqu'il y a eu un débat sur le lieu. Les avocats de la défense ont demandé à ce que ce soit délocalisé. Finalement, la reconstitution s'est tenue sur le lieu du crime, dans d'excellentes conditions.
À tout de suite.
Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr. Carrefour.
Quand vous me dites, alors moi je ne comprends pas les gens qui font les choses à moitié. Eh bien ça me donne envie de vous dire, achetez votre café chez Carrefour et recevez 50% du montant de vos achats en bon d'achat. Et c'est valable sur tous les cafés, même en promotion. Du coup, ça c'est la moitié qui fait plaisir. Et c'est dès demain et jusqu'à jeudi dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Dès 10 euros et jusqu'à 30 euros d'achat, bon d'achat valable du 10 au 26 mai. Modalité complète sur carrefour.fr.
Peugeot. Nous prenons en moyenne 35 000 décisions par jour. On ne sait pas vous, mais chez Peugeot, on trouve que ça fait beaucoup. C'est pourquoi nous lançons le nouveau Peugeot 3008 hybride. Plus besoin de choisir entre électrique et thermique. Sobre et dynamique, il permet de rouler jusqu'à 50% du temps en électrique, en ville, et d'économiser jusqu'à 30% de carburant. Venez le découvrir en concession ou sur Peugeot.fr. C'est sans doute la meilleure des 35 000 décisions que vous prendrez aujourd'hui.
Suivant état de charge de batterie, style de conduite versus une motorisation thermique. Pensez à covoiturer.
Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue sur un match, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales retour de l'UEFA Champions League avec Paris-SG Dortmund, demain à 21h sur Canal Plus Foot, et Real Madrid-Bayern, mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Carrefour.
Quand vous
vous me dites ? Les bons d'achat ? Je les cumule et après je me fais plaisir.
Eh bien, je vous précise qu'il y a 8 euros offerts en bons d'achat des 20 euros d'achat sur tous les produits du rayon hygiène et beauté, même en promotion. Ça devrait vous plaire.
C'est merveilleux.
Et c'est dès demain et jusqu'à jeudi dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Or, parapharmacie et petit électroménager beauté, offre limitée à 3 bons d'achat par foyer, modalité complète sur carrefour.fr.
RTL Matin.
RTL 7h43, Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin l'avocat de la mère de Naël, maître Nabil Boudi.
Naël, on le rappelle, c'est ce jeune homme de 17 ans, tué le 27 juin dernier après un refus d'obtempérer alors qu'il était au volant d'une puissante voiture immatriculée en Pologne. C'est ce drame qui avait déclenché les émeutes du début de l'été. Une reconstitution a eu donc lieu hier à Nanterre. Sur les lieux, c'est un moment très important, maître, puisque pour la première fois, tous les protagonistes étaient réunis. Le policier qui a tiré, son collègue également, ainsi que les deux passagers qui se trouvaient dans la voiture avec Naël, deux jeunes âgés de 14 et 17 ans au moment des faits. Vous y étiez, la mère de Naël également, elle n'y était pas obligée. Pourquoi est-ce qu'elle a voulu y assister ?
Vous savez, la maman de Naël, Okmounia, que je représente, c'est une maman endeuillée qui a vécu un terrible drame, qui a vu la mort de son fils quasiment en direct, se faire exécuter comme ça de sang-froid, on en parlera ensuite sur les conditions. Je pense qu'elle arrivera à faire son deuil quand l'enquête sera terminée, quand on aura un procès. Donc naturellement, hier, voir le véhicule de son fils sur la scène, voir les policiers qui ont ôté la vie de son fils, a été un moment particulièrement douloureux pour elle, qu'elle attendait, qu'elle appréhendait, qui a ravivé un certain nombre de souvenirs particulièrement douloureux pour elle. Mais comme depuis le début de la procédure, elle a fait preuve d'un immense courage, d'une immense résilience, d'une particulière dignité, puisqu'elle s'est rendue dans la zone, en tout cas, de la reconstitution. Et elle a passé toute la journée à attendre que la reconstitution avance. Elle a posé des questions, à son conseil, pour essayer de comprendre ce qui se passait, pour essayer d'avoir plus d'éclaircissement, d'avoir des détails sur les raisons qui ont conduit à la mort de son fils. Donc, il y a quand même eu une part de soulagement de sa part hier.
Maître Boudi, l'enjeu de cette reconstitution, c'était notamment de savoir si les policiers étaient ou non en danger au moment des faits. On va point à point, voir ce qui s'est passé, ce qu'il a pu se passer, et surtout ce qu'a dit la reconstitution d'hier. Florian M., le policier qui est mis en examen pour homicide volontaire, avait donné avant cette reconstitution 3 raisons à son tir. Première raison, il dit avoir eu peur pour son collègue, peur qu'il se fasse renverser, embarquer ou écraser. Est-ce que ce matin, après la reconstitution d'hier, cette explication tient toujours ?
Bon, vous imaginez que je ne suis pas en capacité aujourd'hui de répondre à toutes les questions, notamment celles qui sont couvertes par le secret de l'instruction. Mais on a des images. Et la reconstitution, telle qu'elle a été produite hier, c'est sur la base de ces images-là qu'elle a été imaginée. Hein, vous savez, l'expert qui a positionné le véhicule s'est appuyé sur les images qui circulent depuis le départ. Depuis le départ, quelle est la position de la partie civile, de la maman que je représente ? C'est de dire, et on le voit très bien sur les images, qu'au moment où le policier va faire usage de son arme, vous savez, c'est bien réglementé, l'usage d'une arme à feu en service. Et les conditions de la légitime défense sont des conditions strictes.
Très encadrées. C'est le code de sécurité intérieure.
Exactement. Ce que dit le code, c'est que un policier peut faire usage de son arme en cas de utilisation de son arme en cas de nécessité absolue.
Qu'est-ce que ça veut dire ? S'il est en danger ou si autrui est en danger ?
Oui.
Nécessité absolue, allez-y.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, nécessité absolue ? Avant même de vérifier si les conditions sont réunies, savoir s'il y a un danger ou pas un danger, qu'est-ce que c'est la nécessité ? C'est-à-dire que le code, le législateur a imposé aux policiers de vérifier s'il n'y avait pas d'autre moyen de parvenir à son objectif que celui de faire usage de son arme. D'accord ?
Sauf que là, dans le cas présent, visiblement, on lui demande à plusieurs reprises, de s'arrêter, la course poursuite.
Là, l'objectif...
De couper son moteur, il ne le coupe pas.
Vous savez, le policier, dans sa première version, vous vous souvenez de ce qu'il a dit. Il a dit que le véhicule était en train de lui foncer dessus. Or, cette version a été contredite par les images, et l'évolution des explications et des justifications l'a été uniquement en raison de ces images-là. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Que si la scène de ce drame n'avait pas été filmée, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu d'affaire Naël. Donc, on est en mesure aujourd'hui de douter des explications.
Vous dites que c'est un usage disproportionné, il n'aurait jamais dû sortir son arme. C'est ce que vous nous dites ce matin, qu'on comprenne bien.
Il y a quelque chose qu'il faut comprendre et que je dis depuis le départ. Moi, ce qui m'a intéressé quand j'ai repris ce dossier-là, c'est comment on en est arrivé à ce qu'il y ait une scène de cette violence avec une telle intensité et qu'on n'ait pas pu interpeller ces individus. Et moi, on ne l'enlèvera pas. Naël aurait dû être descendu de son véhicule. Comme les témoins l'expliquent depuis le départ, des témoins qui n'ont aucun lien ni avec les victimes, ni avec les mises en examen, ont expliqué que quand les policiers sont arrivés à la hauteur du véhicule, il n'y a pas eu de discussion possible.
Oui, sauf que, maître, pardonnez-moi, mais ça faisait plusieurs minutes que ces policiers essayaient d'arrêter ce véhicule. Il y a eu cette course-poursuite. Naël, qui était au volant de cette voiture, je rappelle, il a 18 ans, il n'a pas de permis. Hein. Il n'est pas censé être au volant d'une voiture.
Vous savez, madame...
17 ans. Juste, pardon, il a failli renverser un cycliste, un piéton. Le cycliste, il raconte avoir eu la peur de sa vie. Si vous voulez, les policiers arrivent enfin à l'arrêter, alors même que ça fait plusieurs fois qu'il lui demande de multiples façons de l'arrêter.
Vous savez, madame, moi, je ne suis pas ici pour essayer de vous convaincre. La seule chose que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas inverser les rôles. Ce n'est pas à la partie civile, ce n'est pas aux victimes de venir expliquer pourquoi elles ont été tuées. C'est au policier qui a ouvert le feu sur un individu qui n'était pas armé, qui était à l'arrêt, qui était en train de coopérer, hein, conformément à ce que racontent les témoins. C'est à ce policier-là de nous expliquer pourquoi il a utilisé son arme à feu, alors que celui-ci a expliqué depuis le départ qu'il avait fait feu alors que le véhicule lui fonçait dessus.
Il a changé sa version après...
Vu les images. Et quelles conséquences vous en tirez-vous de cette évolution-là de
Moi, je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit, et encore une fois, il y a la justice...
Mais c'est ces questions-là, ces questions-là qu'il faut poser.
Mais c'est
pourquoi, pourquoi la version du policier évolue. Parce que le policier, si la vidéo ne sort pas, il n'y aurait pas eu d'affaire Naël.
Donc le policier ment de
Alors,
A à Z d'après
Chacun tirera les conséquences. La seule chose que je dis, c'est que, heureusement qu'on a des images dans ce dossier, sans les images, il n'y aurait pas eu d'affaire Naël.
La reconstitution, elle a permis de montrer quoi? Qu'il mentait?
Alors, moi je ne suis pas là pour accuser telle ou telle personne de mensonge. La seule chose que je dis, et que je vais répéter devant vous, c'est que, conformément aux vidéos, ce qu'il faut comprendre, c'est que la reconstitution s'est fondée sur les vidéos qui ont été diffusées largement dans le public. Ce qu'on voit sur la vidéo, c'est que le policier n'est pas en danger. Il a expliqué au départ que le véhicule lui fonçait dessus et que c'est pour ça qu'il a fait usage de son arme. Donc, la conséquence principale de cette évolution-là, c'était que le policier n'était pas en danger de mort, n'était pas en danger tout court, et par conséquent, l'usage de son arme n'était pas nécessaire.
Il n'était pas en danger, son collègue non plus, sauf qu'autour, il y avait du monde. Il était 8h du matin, Nanterre, c'est une heure où il y a du monde. Il a pu se dire, si je le laisse filer, il va renverser des gens et pourquoi pas les tuer.
Dans ces cas-là, ce que vous êtes en train de nous dire, madame, c'est que toutes les fois où un véhicule démarre, suite à un refus d'obtempérer, il faut faire feu. C'est ça que vous nous dites ?
Moi, je dis rien. Je vous pose la question.
Alors, moi, je vous dis que le code est précis. L'usage d'une arme à feu doit se fonder uniquement sur un danger imminent et non pas un danger...
Et donc là, le danger n'est pas imminent d'après vous ?
Non, il n'est pas imminent. Il est uniquement hypothétique. Et dès lors, on ne peut pas utiliser une arme à bout portant, une arme létale sur un individu de 17 ans, sur la base d'une hypothèse.
Maître Boudy, est-ce que vous comprenez qu'une partie des gens qui nous écoutent ce matin se disent que Naël aurait dû s'arrêter dès le départ, qu'il a mis en danger la vie de plusieurs personnes, que tout ça ne serait sans doute pas arrivé s'il ne s'était pas trouvé au volant de cette voiture, s'il s'était arrêté quand les policiers lui demandaient.
Alors, encore une fois, je ne suis pas là pour faire le procès des victimes. Hein, il faut surtout pas tomber dans ce piège-là d'inverser les accusations.
Il ne s'agit pas d'inverser les accusations, mais de resituer un contexte. C'est ce que se disent beaucoup de gens qui nous écoutent sans doute ce matin.
Alors, ce que moi je dis aujourd'hui, ce qui intéresse l'enquête, c'est les agissements des policiers. C'est l'auteur du tir qui est mis en examen. Ce ne sont pas les personnes qui sont dans le véhicule. C'est-à-dire que leur statut de victime à ces personnes-là, aujourd'hui, est confirmé par la justice. Donc c'est uniquement aux personnes dont les responsabilités vont probablement être engagées qui doivent s'expliquer aujourd'hui. Et c'est tellement vrai que l'enquête, elle s'intéresse à quoi aujourd'hui ? Elle s'intéresse pas au refus d'obtempérer. Mmh. Elle s'intéresse uniquement à l'épisode qui a eu lieu, place Nelson Mandela.
Pour vous, l'homicide volontaire, il ne fait aucun doute ? Le policier dit « je n'avais pas l'intention de tuer ».
Alors, je ne vais pas rentrer sur des détails sur l'intention homicidaire ou pas. À bout portant, on est à moins d'un mètre, une arme létale en direction d'une zone vitale, le résultat est imminent.
La prochaine étape, c'est le procès. Juste d'un mot, c'est une question de mois, de jours, enfin d'années plutôt ou...
Oui, alors, vous savez, les instructions sont souvent longues. La seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que l'enquête avance bien, l'enquête avance vite. Le juge d'instruction a réalisé, à mon sens, les actes les plus élémentaires pour cette procédure-là. Mmh. Il y en aura d'autres à venir, mais l'enquête avance assez vite et on espère un procès assez rapidement pour la vérité et pour Naël.
Merci beaucoup, maître, d'avoir été avec nous ce matin.
Le policier n'était pas en danger, vient de nous dire maître Boudy, qui évoque, lui, un danger hypothétique. Vous restez avec nous, maître Boudy. Vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant.
Yves Calvi, Amandine Bégaud.
RTL Matin jusqu'à 9h.
Grand frais.
Bonjour, c'est le traiteur. Alors, pour votre cérémonie de demain, je peux pas. J'ai grand frais. Ils ont de savoureuses myrtilles bien parfumées, comme je les aime. Bon, en commençant à préparer les toasts maintenant, ça devrait le faire pour vos 300 invités. C'est bien ça, hein?
Grand frais, c'est 300 fruits et légumes ultra frais disponibles chaque jour. Et jusqu'à jeudi, les myrtilles sont à 80 centimes les 100 grammes. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais!
Le meilleur marché.
Soit 7,99€ le kilo. Origine selon arrivage précisé sur le lieu de vente. Magasin ouvert ce mercredi 8 et jeudi 9 mai de 9h à 13h. Liste et horaires sur grandfrais.com.
Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
La vie claire.
Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût? En ce moment chez La Vie Claire, profitez de moins 15% sur tous nos pains bio, dont nos 22 recettes exclusives. Et dès 30€ d'achat, on vous offre un pain sportif. Alors, ça vaut le goût ou pas?
La Vie Claire, la bio clairement engagée.
Offre limitée à une personne et par foyer. Voir conditions sur lavieclaire.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
Il est 7h55, cher Philippe. Nabil Boudy, avocat de la famille de Naël, est donc resté pour votre chronique.
Et bonjour, Nabil, vous êtes donc avocat, vous avez grandi dans un quartier sensible. Nabil, vous vous appelez donc Nabil, on vous donne la parole, on vous appelle maître. Pas de doute, nous ne sommes pas sur CNews ce matin. Alors, je ne peux malheureusement pas, Yves, dire du mal d'un invité d'origine algérienne, rapport à ma colocataire depuis 17 ans. Certains utiliseront le terme abusif de compagne, toujours sous OQTF, mais vous connaissez les lenteurs de l'administration française, vivement 2027, que ça dégage tout ça. Nabil, vous avez une réputation d'avocat incisif, rentre dedans, vous êtes un Dupont-Moretti berbère, un Jacques Vergès de la street, un Robert Badinter du terre-terre. Nabil, vous êtes devenu avocat sans passer le bac. Alors je précise quand même pour les plus jeunes qui nous écoutent, cette cascade a été réalisée par un professionnel. Ne reproduisez pas ça chez vous. Alors en apprenant que vous n'avez pas le bac, c'est vrai que ça m'a donné un espoir. Je me suis dit, Filou, si tu voulais, toi aussi, tu pourrais devenir dès demain ténor du barreau. Et puis j'ai vu que vous avez quand même une licence, un master en droit pénal, et je me suis dit, Filou, tu resteras un génie du micro, et c'est déjà pas si mal, en fait. En interview, Nabil, vous citez trois personnalités que vous aimeriez rencontrer. Mohamed Ali, Churchill et Zidane. Vous auriez pu dire Yves Calvi, Amandine Bégaud, Cyprien Sini ou Marina. Mais c'est honnête de votre part. Il s'en branle d'être là ce matin.
Nabil Boudy est un avocat reconnu, mais il a été aussi, ce n'est pas commun, joueur de football professionnel. Mais
c'est fou ça. Nabil, c'est un peu l'enfant d'Éric Dupond-Moretti qu'il aurait eu avec Kylian Mbappé. Ah bon? Ou Gisèle Halimi avec Michel Platini.
J'ai dit typiquement,
c'est plus possible Gisèle Halimi, c'est mieux Gisèle. Vous avez des clients enfermés en Arabie Saoudite, en Turquie, en Irak, en Syrie. J'imagine qu'il doit y avoir quelques honoraires de retard. Mais la téléconsultation, ça a dû vous changer la vie quand même. C'est obligé d'aller à Damas à chaque coup. Bon, Nabil, plus sérieux, vous êtes l'avocat de la famille de Naël. Ce drame terrible qui n'est pas le sujet qui vient en premier quand on demande aux abuseurs leur sujet de prédilection, la mort de Naël, passe très loin. Après les engueulades de coupe chez Ikea, les flatulences en ascenseur, et bien sûr Anne Hidalgo. Et les flatulences d'Anne Hidalgo.
On
peut mixer les trois.
Bon, écoutez, on se rappelle de la cagnotte solidaire créée par le désormais candidat de Reconquête, Jean Messia, pour le policier.
Oui, alors, l'extrême droite a donc fait rimer qui veut gagner des millions et fait entrer l'accusé. avant le verdict de la justice. Demain, il faudra peut-être gagner une villa avec piscine à Jonathan Daval, une croisière dans les Cyclades à Monique Olivier. Alors, on a tous croisé des policiers, on a tous pu constater qu'il y en a des formidables. Il y a Abdoulaye Kanté qu'on salue, qui nous écoute. Il y a des mecs dévoués à leur tâche, empathiques, j'ose le mot. Intelligent, oui, il y en a. Absolument. Et puis, il y en a, on a aussi pu constater qu'il n'y avait pas que des intellectuels et des armes dans certaines mains deviennent dangereuses. Prenez les académiciens français, par exemple. Ils ont tous une épée. Il y a très peu de blessures par arme blanche sous la coupole. Jean d'Ormesson n'a jamais tenté d'embrocher Alain Decaux pour avoir fini les frites ou draguer Hélène Carrère-Dancos. Tu vois, vous connaissez l'expression « il faut bien que jeunesse se passe », encore faut-il qu'elle puisse se passer et qu'elle ne soit pas arrêtée par la violence de notre société, d'un autre jeune, d'une autre bande ou d'une interpellation policière. Naël a fait des conneries comme 98% des ados, des petites, des grosses, là c'était des grosses. C'est quoi l'âge bête chez l'ado? C'est 12-19 3-45 ans chez le garçon. Et si Naël avait rencontré, lors des premières bêtises, l'autorité parentale, l'autorité de notre société, ou d'un grand frère, ou une main tendue, ou un modèle, ou une passion qui le sorte de la misère sociale, bref, n'importe quelle raison pour ne pas faire le con au volant de cette bagnole, il sera encore là, et aujourd'hui on aurait parlé de foot, ça aurait été beaucoup plus sympa.
Dites-moi, à propos de main tendue, on va parler de celle d'Éric Zemmour ce week-end sur le marché d'Ajaccio. Éric Zemmour a frappé une femme qui lui avait lancé un œuf.
Oui. Ah bah oui, on était obligé de cette musique. Après Kennedy à Dallas, Zemmour à Ajaccio.